Le groupe Tulou s'est formé en 95, si je ne me trompe pas.
Plutôt 97, mais 96-97. Ça dépend des articles de presse, mais en réalité, ouais. Bon, bon, c'est pas très important. Hein. Ça commence à faire un bout de temps, quoi.
Bah oui, justement, je voulais vous demander comment le groupe a évolué depuis toutes ces années.
Comment il a évolué, y a eu quelques changements de personnel, notamment le poste qui a le plus bougé, c'est la batterie. Je crois qu'on on a dû avoir 5 batteurs différents.
D'accord.
Après, le bassiste d'origine, il n'est pas resté très longtemps. Notamment parce qu'il n'aimait pas du tout la scène, ça le rendait malade de monter sur scène. Il a arrêté pour ça et assez rapidement, il a été remplacé par Eric Doboga, qui est toujours le bassiste actuel. En fait, Thierry Plouze, le guitariste, moi et Eric, on est là depuis le début.
D'accord. Et du coup, pourquoi s'être appelé Tulou ?
Eh bien, c'est le lieu où habite Thierry Plouze, l'autre guitariste du groupe. Et donc, c'est le nom d'un lieu dit, hein, c'est une ancienne ferme, un Dolon. Et c'est là qu'on a enregistré notre premier album. Et l'album était fait, mais on n'avait pas de nom de groupe.
Okay.
Et je me souviens que c'est le bassiste de l'époque, Stéphane Gonnet, qui a suggéré Tulou, puis on a trouvé ça super, parce que c'était un peu poétique.
C'est...
Ouais.
C'est le lieu de l'enregistrement du premier album, en fait.
Exactement, ouais.
D'accord.
Et je me souviens aussi que c'est l'époque où Portiched avait sorti son premier album, et c'est le même principe, Portiched, c'est le nom d'un lieu d'où il venait, et je trouvais ça chouette de s'identifier à l'endroit d'où on venait, quoi.
C'est vrai que c'est pas mal. Et du coup, pour parler des choses un peu plus récentes, comment s'est passé l'enregistrement et la composition de votre dernier album qui se nomme La peau des arbres, sorti le 5 février ?
La composition, c'est un peu toujours le même principe, parce que c'est moi qui compose, en fait. J'écris et les textes et les musiques chez moi.
D'accord.
Souvent dans ma cuisine, parce que j'ai une belle vue sur le jardin, mais... C'est un détail, hein, mais bon, je compose en guitare-voix, quoi.
Donc pour tous les albums, c'est vous qui composez?
Ouais. Okay. Alors depuis quelques années, j'alterne, je fais un Tulou ou un sous mon nom, Xavier Plumard. Mais parce que ça me permet de travailler avec d'autres musiciens. Ça porte mon nom, mais je suis pas tout seul sur les disques, bien sûr. Mais quand je commence à avoir 7-8 morceaux de près, j'entrevois la possibilité de faire un disque, et ben... Je convoque mes copains et puis on répète. Mais après, je fais pas de direction artistique du tout. Chacun joue ce qu'il veut. Je joue les morceaux, guitare-voix, et puis les choses se mettent en place naturellement, comme ça.
D'accord.
Ensuite, on discute ensemble. Ou des fois, ça fonctionne tout de suite. Ça dépend des morceaux. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Alors, on cherche ensemble quelle direction prendre, quels arrangements apporter. Mais c'est vraiment un travail collectif ensuite, le travail d'arrangement.
Comment vous s'est déroulé le clip, parce que vous avez fait un clip pour le titre Mayol. Comment s'est déroulé le clip et comment l'idée est venue, etc.
Moi qui ai proposé à Léo Doboga, donc c'est le réalisateur du clip, c'est le fils d'Eric. Donc Eric, c'est le bassiste. Et on avait déjà eu l'occasion de faire 2-3 petits trucs avec lui, comme ça, pour le plaisir. Il se trouve qu'il a une formation de reporter animalier.
D'accord.
Il a fait une école qui s'appelle l'école de Minigout dans la région centre. Et moi, j'avais vu ses travaux d'école, un film qu'il avait dû faire. Et j'ai trouvé ça très joli, c'était très poétique, sa manière de filmer. Donc, on lui a proposé, on lui a donné carte blanche, en fait. Et ensuite, lui, il a quand même écouté la chanson. Et dans le texte, il a assez rapidement compris que je parlais d'un renard au début, dans le premier couplet. Et c'est vrai,
oui,
c'est
très imagé,
mais lui, il a entendu que... Ouais. Et puis après, pour le reste de l'histoire et du clip, il s'est inspiré d'une fable africaine, je ne sais plus de quel pays, mais qui dit que, en gros, l'arbre symbolise nos racines, l'endroit d'où on vient et ce qui nous a constitués, et que dans cet arbre, l'homme découvre rapidement qu'il va falloir tailler la pirogue. C'est-à-dire que la pirogue, elle, symbolise notre aspiration à s'éloigner de nos racines et à aller voir plus loin, découvrir le monde.
D'accord.
Mais que le paradoxe, c'est que pour faire la pirogue, il faut tailler l'arbre. Donc, voilà, c'est une espèce d'allégorie de notre contradiction à vouloir aller voir ailleurs et en même temps rester proche de ses racines. Ça, c'est l'inspiration de départ. Ensuite, il en a fait sa propre interprétation.
Et ça a rendu un très joli clip.
Ouais, les images sont très belles, ouais. On était très contents du résultat.
Et moi, je me demandais pourquoi sur cet album, vous avez chanté en français et en anglais, il me semble.
Oui, alors en anglais, à part le morceau, au milieu de l'album, il y a une reprise de Nina Simone, Black is the Color. Ça, je voulais le faire parce qu'il y a longtemps qu'on le joue sur scène. Et ça me tenait à cœur de le mettre sur un disque.
D'accord.
Et je trouvais que c'était le bon moment parce que c'est une vieille chanson hein, qui date de 69, mais qui n'a malheureusement rien perdu de son actualité parce que c'est un texte à double sens. C'est une déclaration d'amour à une femme noire, donc ça décrit la beauté de sa peau et de sa négritude. Et en même temps, c'est toute une revendication sur le droit des Noirs. Et je trouvais qu'avec le mouvement Black Lives Matter qui fait du bruit depuis 2 ans là, c'était bien de la mettre enfin sur un disque quoi.
D'accord. C'est vrai que vous faites beaucoup de reprises en général dans les albums. Il y a une reprise.
Oui, c'est pas systématique, mais presque ouais. J'aime bien parce que c'est une manière de rendre hommage à ceux qui nous ont précédés et qui moi m'ont donné envie de faire de la musique en tout cas. Enfin je dis ceux qui m'ont précédé, c'est pas systématique, des fois c'est des contemporains. Je me souviens sur un album sous mon nom, j'avais fait une reprise de Richard Rowley. Il doit avoir à peu près mon âge ce gars là. Et pour les deux autres textes en anglais, en fait ils sont pas de moi, c'est de mon ami Alain Bouvier qui est un poète qui vit à La Ferté-Bernard et qui je sais pas pourquoi il écrit en français, mais sur ces deux textes là il les a fait traduire en anglais et il tenait à ce que ce soit chanté en anglais.
D'accord.
Donc j'ai respecté son choix.
Et en parlant des reprises, je voudrais parler un peu de l'album Spécial Musette.
Oui.
Déjà, pourquoi avoir voulu faire un album Spécial Musette? Et moi, c'est la pochette qui m'intrigue, donc je suis pas d'accord avec tout le monde. Et il y en a qui disent que c'est dans le thème. Moi, je trouve que ça... J'ai peut-être pas l'image, la bonne image de la musette, mais je trouve que la pochette est assez... On va dire que la femme qui est dessus, c'est assez contradictoire avec la musette, mais juste de mon impression. Après, je sais pas si c'est pas ça ou pas.
Alors pourquoi le faire? C'est parce qu'en fait, c'était une musique qu'on a l'habitude de jouer, on le fait plus maintenant, mais à l'époque, dans notre village, parce que moi j'habite le même village que Thierry, le guitariste, et dans notre village il y a un super lieu qui s'appelle le Musée de la Musique Mécanique, qu'il faut absolument visiter, c'est un super endroit. Et donc, le dimanche soir, ça nous est arrivé plusieurs fois d'aller jouer là-bas pour animer les fins de soirée au bar. Et évidemment, on n'allait pas jouer des morceaux de Tulu, qui sont un peu plombants et qui, enfin, c'est pas vraiment fait pour faire danser ou égayer l'ambiance. Et donc, on jouait des morceaux que tout le monde connaissait, quoi, et qui sont un peu dans la culture du lieu, quoi. Par ailleurs, moi, je considère que c'est notre folk à nous.
Oui.
On encense toujours le folk américain, mais le folk français, c'est cette musique-là, le musette.
C'est vrai, c'est vrai.
Et j'avais envie également de faire entendre les textes, parce que les textes sont incroyables, je trouve, de toutes ces chansons. Et donc j'en viens à la pochette. Dans bien des chansons, alors c'est pas toutes, hein, mais quand même deux tiers des chansons, je pense, parlent de la manière dont on traite, et surtout dont on maltraitait les femmes.
Oui.
Alors on pourrait en parler au présent, en fait, ce sont des vieilles chansons. Mais je crois que
toujours d'actualité.
Mais évolue, mais bon... très lentement. Et donc, et c'est assez terrible, par exemple, la chanson Rikita, tout le monde connaît le refrain, tout le monde reprend ça en chœur à la fin des repas. Et en réalité, ça raconte l'histoire d'une fille qu'on va chercher mineure à Java pour en faire une pute à Paris et qui finit par se suicider. Et donc voilà, et voilà la pochette. Parce que la pochette, en fait, c'est la muse de toutes ces femmes chantées dans les chansons musettes qui vient pour régler ses comptes.
D'accord.
C'est pour ça qu'elle porte un fusil aussi.
Ok, oui.
Et aussi, c'était une manière de... Évidemment, elle a un look un peu plus moderne que ce qu'on peut associer à ce genre de chanson. C'était une manière de dire que les propos qui étaient énoncés là-dedans étaient toujours d'actualité, en fait.
D'accord. Je comprends tout le sens de la pochette maintenant. Et on va parler aussi des choses qui fâchent, du coup, d'actualité maintenant. La crise sanitaire du Covid-19, comment elle vous a impacté?
Comme tout le monde, on n'a plus de boulot.
Est-ce que l'album, il était en composition, le Covid était déjà là ou vous avez commencé avant? Est-ce qu'il
était terminé, mais il aurait dû sortir au mois de mars ou au mois d'avril, juste quand le premier confinement a commencé. C'est pour ça qu'il sort que maintenant, c'est parce qu'en fait, les distributeurs se sont trouvés à devoir bloquer toutes les sorties. Et il y a eu tout un wagon de disques qui devait sortir, et à chaque fois qu'il y avait un déconfinement, une fenêtre qui s'ouvrait, ils en sortaient un petit peu. Et nous, on faisait partie de la file d'attente, et D'accord. À un moment donné, ils nous ont dit, bah là, on peut y aller. On a dit, ok, tant pis, on y va.
Ok, ça marche.
Même si c'est pas les conditions idéales pour sortir un disque, il faut continuer à faire les choses quand même, quoi. Faut pas que tout s'arrête. Donc,
oui, il n'y a pas trop le choix.
Ouais. Et puis, bah, nous, même moralement pour nous, ça nous fait quand même une actualité, quelque chose à laquelle, auquel se raccrocher, parce que sinon, c'est le néant, quoi.
Même s'il n'y a pas de concert possible, le fait de sortir un disque, je trouve que c'est bien. Faut continuer de sortir de la musique, ça fait toujours plaisir.
Ben, ouais. Alors, on va essayer, pour pallier au manque de concerts, à la fin du mois, on va être en résidence à la salle Athéna de la Ferté-Bernard et on va tâcher de filmer un concert qu'on pourra mettre en ligne pour accompagner la sortie.
Oh, ça, c'est trop bien. Mais après, c'est pas pareil sans public, mais
non, c'est pas pareil. Et puis même, enfin moi, en tant que spectateur, c'est bien hein, toutes ces alternatives qui sont proposées. Regarder un concert sur un écran, mais c'est pas la même chose que d'être dans une salle.
Bah non, c'est pas du tout pareil, mais c'est le seul moyen qui nous reste maintenant.
C'est ça, voilà. C'est un moyen d'essayer de garder un lien avec notre public aussi.
Oui, c'est ça. Et j'aimerais savoir comment vous définissez votre style musical, parce que je trouve que chaque album, au final, est quand même assez différent, et surtout certains morceaux.
Ouais, c'est vrai, c'est bien de le remarquer parce que en général on catalogue ou chansons françaises ou folk rock et c'est vrai qu'il y a de ça dedans hein. Je chante en français, il y a une vraie inspiration folk qu'on peut pas renier, mais on essaie en effet d'aller voir un peu d'autres territoires quoi. On écoute alors comme j'expliquais tout à l'heure, comme il n'y a pas de direction artistique, on est influencé par les influences de chaque membre du groupe. Mais je sais qu'en ce qui me concerne, et le batteur Alex aussi, on écoute beaucoup de jazz, beaucoup de musique contemporaine, plein de musique un peu étrange qui sortent des formats classiques. Okay. Et donc, on essaie de mettre un petit peu de ça dans notre musique.
J'allais justement vous demander si vous avez 2-3 noms de groupes ou d'artistes qui étaient de vos influences.
Ouais, il y en a tellement.
Oui, c'est pas facile de choisir.
Surtout avec mon âge avançant, ça de plus en plus, mais bref, pour moi, il y a un artiste qui est une référence absolue pour moi, c'est Marcolis. Marcolis, c'était le leader de Tok Tok. Et les deux derniers albums de Tok Tok et l'unique album solo de Marcolis sous son nom, pour moi, c'est vraiment une espèce de ligne de mire, de point de repère, un truc inatteliable, chef-d'œuvre absolu pour moi.
D'accord.
Et qui, je sais, m'influence. J'essaie pas de refaire ça ou de copier ce que ce mec a pu faire, mais je sais que oui, c'est un point de repère pour moi. Après, il y en a plein d'autres. Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup marqué par Neil Young ou Leonard Cohen, Lou Reed. Mais aujourd'hui, on écoute tellement de choses. Et puis j'ai des enfants qui écoutent beaucoup de musique aussi. J'ai une fille qu'on écoute énormément et qui a des super goûts, je trouve. Donc elle me fait découvrir plein de choses.
C'est trop bien. Faut s'ouvrir à toutes les musiques.
Ouais. Et bon, alors après, elle est un peu, comment dire, elle aime bien tout ce qui est le mouvement Revival Soul des années 70, mais qui se refait aujourd'hui vachement bien, comme peut faire Michael Kiwanuka. Là, elle vient de me faire découvrir une fille qui s'appelle Céleste. Ouais. Enfin bref, voilà, ça s'arrête jamais, il y en a trop de trucs.
Oui, il y en a beaucoup trop. C'est ça qui est bien dans la musique, c'est qu'on peut toujours découvrir. Ouais. Du coup, je disais qu'il y avait des morceaux qui me paraissaient très différents, par exemple sur l'album qui s'appelle Peña. Il y a un morceau qui s'appelle Aucun signe.
Ouais.
Et je trouve que comparé à tous les autres morceaux, il est très différent. Le chant est pas pareil, c'est plus un peu.
Du c'est normal,
slam.
C'est pas moi qui chante.
Et voilà, c'est très
un
différent.
Slammer qui était invité, ouais. Qui s'appelle Romlito. Okay. Mais peut-être tu connais pas ce disque, mais on en a fait un autre où j'avais composé exprès pour ce slammer. Il s'appelle Le goût du bonbon.
Ah, je l'ai vu, mais c'est pas un que j'ai beaucoup écouté.
Alors, si t'aimes bien le flow de ce slammer, je te conseille cet album-là parce qu'il chante la moitié des morceaux avec moi.
Ça va.
Mais, mais j'étais fan de son écriture et de son interprétation. Mais je suis content sur le dernier disque, il y a un très chouette duo. Justement, la voix féminine de l'album, c'est Astrid. Et j'étais content qu'elle accepte de faire le duo de morceaux de Nina Simone avec moi.
D'accord. Et justement, en parlant de collaboration, est-ce qu'il y a une collaboration avec n'importe quel artiste ? Genre, si tout était possible, vous choisiriez qui ?
Ou bien Marcolis, dont je parlais tout à l'heure, mais il est mort.
Non,
il n'y a pas longtemps.
J'ai dit si tout était possible.
Et sinon, j'adorerais composer pour Bess Gibbons, la chanteuse de Portishead, qui est une voix qui, moi, me bouleverse à chaque fois. C'est un de mes fantasmes, c'est de faire un album qui s'appellerait Tu Louves. au lieu de Tulou, où je ferai comme d'habitude, je compose des chansons, et une fois qu'elles sont prêtes, ce serait une interprète féminine différente pour chaque chanson qu'on inviterait.
Mais c'est un projet qui peut se faire.
Oui, il faut toujours garder ses rêves en tête. Ouais.
Mais
il y a longtemps que j'ai ça en tête. Donc il y aurait Bess Gibbons d'invité, il y aurait G. Harvey, il y aurait des gens moins connus parmi mes amis qui ont des voix magnifiques que j'invite sur les disques régulièrement. Voilà. Graziella De Michel, qui était une fille qui chantait en français. On n'entend plus du tout, j'aimais bien cette fille. Bref, voilà, peut-être ça, on le fera un jour.
Peut-être. Si je dis pas de bêtises, mais il me semble que sur certains albums, il y a des chansons qui sont cachées, qui sont pas écrites sur le disque, mais qui sont dedans.
Sur des plus vieux, C'était une espèce de mode qui se faisait à l'époque, dans les années 90 et le début des années 2000, C'était des morceaux fantômes.
Oui, c'est ça.
Donc on s'est amusé à faire ça, mais on a arrêté.
Oui, c'est plus d'actualité. Je crois que c'est La Belle Inutile que j'ai le plus écouté.
J'aime beaucoup le son de celui-là parce qu'il a été enregistré dans un riad à Marrakech. Un riad, c'est des grandes maisons traditionnelles avec une cour à ciel ouvert dans la vieille ville. Et on entend les oiseaux.
Du coup, tu as fait 3 albums, toi, de ton côté, tout seul ?
4 même, mais il y en a un qui s'appelle Fulbert, qui est encore plus ancien. C'était pas sous mon nom, ça s'appelait Fulbert.
Okay.
Et puis sinon, j'en ai fait 3 sous mon nom,
Du coup, comment tu fais pour... En fait, est-ce que c'est ta manière d'écrire pour Tulou ou pour toi tout seul est différente ou comment ça...
Non, les papas, c'est la même chose en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis toujours en train de penser à une chanson. J'écris pas une chanson tous les jours, mais tous les jours, je travaille une idée ou un truc, ou une musique ou un bout de texte. Et puis quand j'ai suffisamment de chansons en stock pour faire un disque, j'envisage de faire le disque. C'est depuis 2009, je crois. Donc ça va faire 10 ans, j'alterne. Je fais un Tulou, un Xavier Pluma.
Ok, mais comment...
Mais la composition, elle est pas faite en pensant que ça va être un Tulou ou un Xavier Pluma.
Comment tu dis, je vais la mettre dans Tulou ou pas?
Tu vois, par exemple, on vient de sortir un Tulou. Alors pendant le confinement, j'en ai composé un autre album.
Okay.
Là, c'est-à-dire, j'ai le stock, j'ai une dizaine de chansons de prêtes pour faire un disque. Et comme on vient de faire un Tulou, je sais que ça sera sans doute un Xavier Pluma.
Ok, ça marche.
Mais bon, il n'y a pas de règle absolue, c'est pas une discipline de moine. Et si jamais les gars me disent, allez, on en refait un, qui sont motivés, peut-être que ce sera un nouveau un Tulou.
Ok, ça marche. Et est-ce que du coup, il y a quand même des projets pour 2021 et 2022?
Cet album-là dont je t'ai parlé, qu'il faut que j'enregistre. Et puis, j'espère qu'on va à un moment donné réussir à refaire des concerts.
Ça serait pas mal. Ça serait bien, ça commence à nous manquer.
Carrément. Mais de toute façon, on est tous un peu dans la même expectative, à attendre de savoir. À mon avis, avant la rentrée prochaine de septembre, il va pas se passer grand-chose. Je doute qu'il y ait beaucoup de choses qui se débloquent.